RCN, écoutez le monde qui bouge.
Il était une fois, l'émission qui parle des comédiens et comédiennes, leur vie, leur histoire, leur filmographie, leur carrière.
Moteur.
Thierry Genovès décrypte tout, chaque mercredi à 19h, sur RCN.
Bonsoir à tous, chers publics. Ce soir, on est encore avec les années Sondra de 1976 à 1978. Et on va tout savoir. Et son prochain film arrive au nom de Doux, Dur et Dingue. La séparation de la star et de sa femme Maggie prend une nouvelle tournure. Clint qui veut divorcer mais a peur d'une longue et coûteuse bataille judiciaire. Pour le moment, Clint fait taire les mauvaises langues en évitant certaines interviews de journaux à sensation qui se frotte les mains quand un artiste a des problèmes. Mais une certaine journaliste au nom de Marlene Beck eut raison, un arrangement entre Clint et Maggie s'est fabriqué dans le dos de Sandra Locke, qui ne trouve pas très claire la décision de Clint. Un jour, alors qu'elle entre dans une des demeures de Clint, la star est en train de boucler une valise. Il lui raconte que Maggie avait prévu un voyage avec Clint et les enfants à Hawaï. Elle espérait retrouver son mariage intact. Clint rassure Locke en lui disant qu'il l'aime toujours et qu'il partait en vacances avec sa femme. C'est uniquement parce que Maggie est fragile en ce moment sur le plan émotionnel. Quand Clint revint d'Hawaï, Locke lui expliqua que sa femme allait demander une séparation légale et non un divorce. De son côté, Sandra Locke était désespérée, disait-elle. Quand on a fait une croix sur une relation, on doit être très ferme. Quelle ironie quand on pense qu'elle fréquentait Clint et que tout au long de leur aventure, elle était mariée et n'a jamais divorcé. Locke était une femme anticonformiste. Elle était d'origine d'une petite ville du Sud. Alors qu'elle avait 12 ans, elle fit la connaissance de son mari Gordon Anderson. Les deux jeunes devinrent des âmes sœurs partageant les mêmes rêves. L'un d'entre eux était de quitter Shelbyville dans le Tennessee pour Hollywood. Anderson était un aficionado du théâtre, il mettait en place des pièces où il faisait jouer tous ses meilleurs amis. C'est d'ailleurs lui qui forma Sandra, pour pleurer par exemple. Il lui expliqua écouter des musiques tristes et gaies de cirque et lui disait de penser à la mort d'un petit chien. À l'époque, les parents de Locke trouvaient que Anderson avait une mauvaise influence sur leur fille. Peu après, Locke, rebelle et déterminé, après avoir obtenu son bac, épousa son premier amour. Locke coupa les ponts avec sa famille depuis de longues années. Anderson passa du temps à chercher des rôles à New York, pendant que Locke, entre deux emplois de mannequin occasionnels et quelques apparitions de publicité, travaillait à la chaîne locale de télévision WSAM-TV. Un jour, Anderson vit son journal qu'un gigantesque casting se préparait avec la Warner Bros. Pour le film « Le cœur est un chasseur solitaire », pour que l'adolescente ait sa chance à son premier casting. Vous allez entendre la bande originale du film « Le cœur est un chasseur solitaire » composé par Dave Cruising en 1967. Anderson se procura un exemplaire du roman de Carson McMullers à la bibliothèque de Nashville et retourna à Shelbyville où il commença à préparer Locke pour le rôle du jeune garçon. Il lui dépécissait les cheveux et les natta. Il lui dessina des taches de rousseur sur le nez, il lui égratigna les genoux et lui banda les seins. Au casting, Locke mentit sur son âge alors qu'elle avait 21 ans. Elle disait qu'elle avait 17 ans, mais personne ne fit attention car elle faisait plus jeune que son âge. Anderson conduisit Sandra à 500 km de leur ville pour le casting dans l'Alabama où un millier de candidates faisaient et s'étaient rassemblés pour affronter un des directeurs de casting du studio. Cette étape réussie, Anderson emmena Sandra à la Nouvelle-Orléans pour rencontrer le réalisateur du film Robert Dennis Miller, pour qu'elle auditionne avec d'autres comédiennes les premiers essais. Ils rentrèrent à Shelbyville et attendirent la décision finale. Coup de théâtre, au bout d'une semaine, on paie un billet à Sandra pour une dernière audition à New York. Tous les gens qui la rencontrèrent trouvèrent qu'elle avait quelque chose d'à part. Un air à la fois triste et heureux, dur mais délicat, une naïveté coquine, un ange de glace. La pénombre mêlée à la lumière, quelque chose de difficile à cerner. Elle obtint le rôle de cette jeune fille sensible d'une petite ville du Sud dont la vision du monde est transformée par la rencontre d'un sourd et muet, interprété par Alan Arkin qui a joué dans de nombreux films. Le personnage qu'elle joua dans ce film dépassera allègrement de tous ce qu'elle jouera après avec Clint. Si en 1978, Maggie s'opposait à la relation avec Clint et Sandra, le mari de Sandra ne s'y opposait pas. Le mariage de Anderson et de Locke avait assez duré, et en plus Anderson avait quitté le cinéma pour fabriquer des figurines. Mais à l'instar du couple Clint et Maggie, le couple Anderson-Locke était très éloigné de ce qu'il dégageait, car c'était un mariage qui durait depuis leur enfance respective. Et quand le couple Anderson-Locke arriva à Los Angeles, Anderson avait pris conscience de son homosexualité. Cela faisait des années qu'il entretenait une relation avec un homme. Locke et Anderson n'avaient plus depuis un moment de relation sexuelle, c'était juste une façade. C'était devenu une relation familiale, ce qui permettait à Anderson de vivre un amour secret et libre. Mais le couple Locke-Anderson se considérait vraiment comme une famille unie. L'un des arrangements, c'est qu'Anderson s'effaçait facilement pour que Locke vive son idylle avec Clint, et Clint venait souvent dormir dans leur maison pendant qu'Anderson n'était plus là, car Locke refusait de dormir seul la nuit. Elle partageait officiellement la même adresse que son mari. Clint était au courant que Anderson était gay. Locke lui avait expliqué immédiatement après leur première nuit. Clint se liera d'amitié avec le couple gay. Ils allaient même en vacances ensemble. Mais est-ce que Clint était heureux? Vous allez entendre justement la chanson interprétée et composée par William Scheller en 1991, Un homme heureux.
Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? Ils ont quand ils s'en viennent le même regard d'un seul désir pour deux. Ce sont des gens heureux. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? Quand ils ont leurs problèmes, bah y'a rien à dire, y'a rien à faire pour eux. Ce sont des gens qui s'aiment. Et moi je te connais à peine, mais ce serait une veine qu'on s'en aille un peu comme eux. On pourrait se faire sans que ça gêne de la place pour deux. Mais si ça ne vaut pas la peine que j'y revienne, il faut me le dire au fond des yeux. Quel que soit le temps que ça me prenne, quel que soit l'enjeu, je veux être un homme heureux. s'aiment, sont-ils toujours un peu rebelles? Ils ont un monde à eux que rien n'oblige à ressembler à ceux qu'on nous donne en modèle. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu cruels? Quand ils vous parlent d'eux, il y a quelque chose qui vous éloigne un peu.
Ce sont des choses. Les ennemis de Locke prétendent que Locke avait envoûté Clint et qu'elle partageait avec la star une intimité que personne n'avait jamais eue. Pour Clint, elle servait de pion pour décharger ses responsabilités au cours de la mise en œuvre de certains licenciements qui allaient bientôt arriver dans Malpasso. Elle fut de plus en plus impliquée dans le choix des films de Clint. Il avait besoin de son aide parce qu'il le voulait bien. Il ne parlait que travail avec elle, il ne s'intéressait surtout à celle qui pensait. Mais c'était une façade. Le plus grand succès de Locke fut de faire des comédies comme Doudou Redingue et Bronco Billy. Ces films se démarquèrent par l'absence de violence et l'humour qu'ils dégageaient. Le premier fit une carrière exceptionnelle au box-office et l'autre une des meilleures œuvres artistiques en tant que réalisateur et acteur de la part de Clint. Locke avait senti chez Clint ce petit garçon introverti qu'il était resté et dans Bronco Billy, le rôle lui alla comme un gant. Cette façon d'être était pour Locke de la timidité au début, mais en fait, Clint avait un vrai problème à communiquer. Doudou Redingue arriva à Malpasso de façon indirecte. Un scénariste au nom de Jeremy Joe Kronsberg, qui avait été acteur à la 20th Century Fox et qui avait tenté de vivre de sa plume en écrivant des chansons. Kronsberg ne connaissait pas Clint personnellement, mais il l'avait croisé au Vince Gym, là où pas mal d'acteurs soulevaient des poids pour entretenir leur corps. Kronsberg, qui décida de devenir scénariste, écrivit son premier scénario en 1976, qui traitait d'un camionneur qui possédait un singe apprivoisé et qui avait la réputation d'être un champion de combat à main nue. Ce scénario se nommait « The Coming of Philobedo ». Kronsberg avait écrit le rôle pour un gorille, mais il s'en renseigna auprès d'un éminent docteur en zoologie qui lui expliquait qu'un gorille ne pouvait être apprivoisé et qu'avec l'orang-outan, ce serait plus facile. On le dirigea vers deux frères qui travaillaient au cirque de la MGM, les frères Berossini. La femme de Kronsberg, qui connaissait bien sa nouvelle secrétaire de Malpasso, Judy Hoyt, la femme de Bob Hoyt, qui avait gagné un Oscar pour le meilleur mixage sur le film « Les dents de la mer » de Steven Spielberg. On présenta donc le scénario, mais Fritz Main, le bras droit de Clint à Malpasso, lui conseille de bien jauger le scénario. Il trouve que Clint va être rabaissé pour ce rôle en conseillant à Clint de bien peser le pour et le contre. Sandra renforça son enthousiasme et l'on oubliera vite la suggestion de Fritz Mainz qui semblait inappropriée. Clint annonça donc que son prochain film serait bien The Coming Philobedo ou Doudou Redingue. Vous allez justement entendre la bande originale du film Doudou Redingue interprétée par Eddie Rabbit et composé par Steve Dorff en 1978.
Always been the kind of man who doesn't believe in strings. Long-term obligations are just unnecessary things. But girl, you got me thinking while I'm drinking one more beer. If I'm headed for a heartache, then why the hell am I still here? I'm testing my resistance, and it's wearing mighty thin. I've got the feeling I should leave before the roof caves in. My mind tells me to move along, but my body begs me stay. And now I feel the need to hold you close and love the night away while you're turning me. Every which way but loose you turn me, every which way but loose. Inside the fire's burning me, in my mind you just keep turning me. Every which which way but blue. Baby, there's no excuse to turn me every which way but blue. When the sun comes up in the morning, it should find me someplace new. But right this minute, all I want is to lay here next to you. Those memories still keep calling me from somewhere in my past. Better hurry if they want me, 'cause I can feel me fading fast. While you're turning me every which way but loose, you turn me every which way but loose. Inside the fire's burning me, in my mind you just keep turning me every which way but loose. Baby, there's no excuse to turn me Balou.
Tout l'entourage professionnel de Clint s'était trompé. Ce film fut un changement positif dans la carrière de Clint. Seule Sandra Locke l'avait senti bon point pour elle. Les patrons de la Warner voulaient aussi être convaincus. Fritz Mainz fit avaler la promotion du film à Frank Wells, le grand patron de la Warner, et se disait que ce genre de film pourrait faire du bien au studio. Le studio fit ce que l'on appelle une prévente du projet, qui consiste à faire des sondages dans la rue ou dans les médias en demandant si vous voyez Clint jouer avec un singe dans un film. Les sondages furent positifs après une réunion que Clint quitta assez vite. Le débat se termina sans lui. De toute façon, Clint était devenu la poule aux œufs d'or du studio de la Warner. Le tournage fut planifié vers la mi-avril 78. Il se déroula à Los Angeles, Albuquerque, Santa Fe, Taos et Denver. Bob Hoyt demanda d'être crédité au scénario pour la somme de $100,000, mais il ne reçut que $25,000 et ne fut pas crédité au générique. Chez Malpasso, ça ne marchait pas comme ça. On l'a déjà vu dans d'autres émissions avant. Clint était dur en affaires, mais Hoyt pouvait passer sur le tournage à tout moment. Mais la rancune fut forte et la secrétaire de Clint quitta son poste, soudée à son mari qui avait trouvé injuste la décision de Clint, et s'arrangea avec lui pour quitter Malpasso, avec une somme moins importante qu'elle avait prévue. On forma donc Manny, un orang-outan formé par les frères Berossini à Las Vegas qui jouerait Clyde le singe. Locke incarnerait un nouveau rôle de chanteuse de cabaret qui flirterait avec Philo Bedo, alias Clint, et qui disparaîtrait dans la nature. Gordon Lewis, lui, jouerait un abruti qui devient copain avec Bedo et une autre actrice au nom de Beverly D'Angelo, qui est la mère de l'abruti, qui est encore plus folle que son fils, qui a perdu son permis de conduire et qui veut le réobtenir. Kronzmer disait que Clint improvisait beaucoup de répliques et que ce n'était pas toujours du bon effet. Il changeait la lecture de la scène et cela atténuait l'effet blague. Ça ne fonctionnait pas bien et c'était moins drôle. Kronzmer mettait la main sur l'épaule de Clint, le mettait dans un coin et le conseillait pour les répliques. Et il le regardait comme s'il était fou, se souvient Kronzmer. Mais toutes ces choses considérées, il était très cool. Cependant, les improvisations dérangeaient vraiment Kronzmer, mais il s'aperçut que certaines improvisations sonnaient quand même bien. Clint a toujours eu du mal à transposer l'aspect chaleureux de sa personnalité à l'écran, que tout le monde connaissait, à la ville. En privé, il se lâchait souvent sur des blagues à caractère scatologique, qui étaient souvent lourdes. Mais quand il jouait, il se forçait, c'était souvent calculé et forcé. Les entorses du script se multiplièrent encore et encore. Même James Fargo, le réalisateur, va déchirer une bonne partie de la fin du scénario pour que la production soit dans les temps, car Clint l'aurait sûrement mal pris. Mais là, pour une fois, Clint est patient quand on multiplie les prises pour le singe, alors que d'habitude, il ne supporte pas. Kronzmer trouva que la sensibilité et la psychologie des personnages avaient été sacrifiées. Il se plaignit avec véhémence. Kronzmer était devenu un emmerdeur sur le tournage et Clint fit passer le message par Mainz, son homme d'affaires, qui dit à Kronzmer de la fermer un peu, tu nous gaves. Kronzmer fut éjecté du plateau par Mainz qui était jaloux car il s'entendait à merveille avec Clint. D'après Kronzmer, Malpasso était comme une cour italienne, pleine d'intrigues où tous les protagonistes rivalisant pour obtenir à chaque fois les faveurs de la star. Les scènes continuèrent d'être écourtées, supprimées, on improvisait en veux-tu en voilà, et Kongsberg fut amusé qu'au montage. Ce n'était pas si mauvais, et il avait vécu sur le tournage malgré ces changements de dialogue, le film paraissait assez réussi. Vous allez justement entendre un extrait du film Doux dur et dingue, une bande de blousons noirs qui cherchent Philo Bédo et qui veulent faire la loi sur sa demeure, et ils sont mal tombés, mamie veille au grain.
Accroche à la rampe.
Eh, hey, par ici, les mecs. Qu'est-ce que tu fais ce soir, ma chenille?
Mec, de la rétrite la main. Allez, ta voix, je vais retirer avant toi.
Dites, la vieille, où est Philo Bédo?
J'en sais rien et ça m'est égal. Ôtez-vous de ma véranda avec cet engin. Ici, c'est une propriété privée.
Vous n'êtes pas très hospitalière.
Je ne le suis pas. Et puis, merde, c'est clair. Sortez d'ici, bande de malotrus.
Eh bien, c'est parfait. Si vous insistez.
Cher public, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite des événements du film Doux dur et dingue avec des changements inattendus de la part de Clint. N'oubliez pas d'aller écouter en podcast l'émission si vous l'avez prise en cours. Merci à tous et très belle semaine.
Il était une fois, l'émission qui parle des comédiens et comédiennes, leur vie, leur histoire, leur filmographie, leur carrière.
Moteur.
Thierry Genovese décrypte tout, chaque mercredi à 19h, sur RCN. Retrouvez ce moment en podcast replay sur rcnradio.info et sur vos smartphones.